Toussaint et Félix Colombani, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes producteur et vous avez une boîte de prod qui s'appelle La Belle Équipe Production. Mmh. Il se fait qu'en 2009, la RTBF se lance un défi, à savoir la création digitale. Et ce qui donne quand même quelques belles créations, notamment la théorie du Y et Birkeland. Et puis finalement, semble-t-il, il y a un nouveau appel à projet et puis vous arrivez.
Voilà, bah alors pour la petite histoire, on a été approché par des auteurs en décembre 2017 avec un projet de web-série un peu farfelu, un peu foutraque, mais qui nous avait tapé dans l'œil assez rapidement. Et sur base de ce projet, on a participé à l'appel à projet de la cellule fiction digitale de la RTBF, organisé en mai 2018.
C'est assez rapide quand même.
C'est
hein.
Extrêmement rapide. En fait, on a
comme le produit finalement que vous sortez. Quoi.
Voilà. Donc en fait, il y a deux étapes. Il y a le dépôt du dossier pour participer à l'appel à projet, participer au concours. On apprend qu'on est sélectionné en février. Et en avril, la RTBF débloque une enveloppe de 10 000 euros à 4 équipes, dont nous, pour créer un pilote. Et ces pilotes seront ensuite soumis au vote des internautes pendant le mois de mai 2018, et on a gagné ce concours à l'arraché, mais on l'a gagné, et on a eu l'occasion par la suite de faire toute une saison 1 de cette série qui s'appelle donc Bolduc et Braddock.
Alors quoi, on va voir Sophie Berck, qui est responsable de la cellule web création, qui devient comme productrice déléguée de la série, et on lui dit tiens voilà, qu'est-ce qu'on fait?
À quelle étape? Avant l'appel à projet?
Après l'appel
à projet. Écoute, s'il y a un truc qu'il faut saluer du côté de la RTBF, c'est la grande liberté de ton et le grand soutien apporté aux équipes qui participent et à l'appel à projet et qui sont sélectionnées par la suite. Parce que pour dire la vérité, la Belle Équipe Production n'a même pas 2 ans, et donc nous sommes des producteurs novices, Félix et moi, novices mais motivés.
Comme toute l'équipe. Hein.
Comme toute l'équipe. Mais c'est vrai qu'on est une équipe de salles jeunes comme ça.
Salles jeunes, ça fait quand même 28, 30 ans.
La moyenne d'âge est dans tout ça.
On a vu la moyenne d'âge dans les 23, 24 ans.
Donc les producteurs sont plus âgés finalement.
Oui. Voilà.
Ouais. Ils ont atteint l'âge de raison.
Je ne sais pas en ce qui me concerne, Félix, pas pour toi.
Pas sûrement plus.
Mais donc par rapport à l'apport et au suivi de la RTBF par rapport à ce projet, il est très important parce que donc il nous conseille sur certains aspects du scénario qu'il faut garder à l'œil pour leur public à eux, donc de la diversité, de l'ancrage dans une certaine belgitude, des acteurs belges, etc., ce qui est normal.
Louis Buisson et Alexandre Hérault, donc oui. Qui sont les deux têtes principales, têtes d'affiche de. Donc Loïc c'est Bolduc et Alexandre c'est Braddock là.
Exactement. Ben, c'est deux chouettes acteurs qui suivent le projet depuis encore plus longtemps que nous, parce qu'il faut savoir que nous on est rentré dans la danse en décembre 2017 avec l'appel à projet RTBF, mais ce projet existe depuis plus de 3 ans. Donc il y a 2 ans de vie de ce projet sans nous, pendant lequel ils ont fait un pilote avec leurs propres moyens, un pilote de 15 minutes qui est un peu foutraque, qui a des petits défauts techniques, mais qui nous avait aussi tapé dans l'œil. Des gens se disaient ah ça, avec un peu d'organisation, un peu de sous.
Ils avaient débuté avec un crowdfunding via Kiss Kiss Bank Bank, et justement ils avaient réuni de quoi vraiment payer l'essentiel pour la production, mais sinon oui, c'est surtout leur sueur et leur sang qui a permis de produire ce premier pilote quoi.
Alors c'était assez surprenant quand même, bon, équipe à l'écriture, on est quasi à Hollywood quoi, 5 scénaristes, c'est énorme quand même.
Ouais, les salaires n'étaient pas hollywoodiens, mais le nombre d'équipes, le nombre d'auteurs, oui peut-être.
On peut les citer, Romuald Agri, Théophile Roux, qui se trouve de l'autre côté.
On
ne
saura jamais.
Janice Hubert, Alexandre Mailleux et... Tom Van Bork.
Van Der Bork. Ouais, il faut savoir, je pense que 5 scénaristes, c'est pas de trop, vu le calendrier imposé par la RTBF, parce que comme tu l'as souligné, on a vraiment eu 1 an entre le premier dépôt du dossier et la livraison à la RTBF. Donc 1 an pour produire quand même 11 épisodes de 7 minutes. Donc ça fait quand même l'équivalent d'un moyen métrage, donc c'est pas rien. Et donc forcément, quand on apprend qu'on gagne la saison 1 en mai, et donc en 3 mois, il faut être capable d'écrire 10 épisodes supplémentaires de 7 minutes, ce qui demande quand même pas mal de travail. Et...
Donc c'était bien qu'ils soient nombreux là-dessus pour le coup, Et ils ont bien travaillé. Nous, on est très contents du travail qu'ils ont fourni et de l'histoire qu'ils racontent.
Alors quand j'ai vu les premiers épisodes, puisqu'en fait ça a commencé la diffusion depuis le 7 février, et il y en aura jusqu'au 7 mars, deux épisodes chaque jeudi, j'ai eu l'impression de retrouver les Goonies, un petit peu du Kill Bill avec notamment la musique, ou même le magnifique pour les plus anciens entre nous.
On est content que tu cites ces références parce que c'est... Elles font partie de celles que et les producteurs et les auteurs-réalisateurs avaient en tête. Donc cette espèce de nostalgie des années 80, le jeu qu'on fait dans l'épisode pilote avec le vieux monsieur chinois qui est joué par une jeune fille. Ben voilà, on a fait attention à déposer plic-ploc des petites références
qui fonctionnent bien.
Hommage à pas mal de références, ouais, parce que
de votre cinéma que vous aviez aimé.
Mais même des références assez internationales, comme par exemple dans l'épisode pilote quand il est dans la boutique avec le vieux monsieur chinois qui lui parle en japonais et lui il comprend et il répond en français. Ça nous fait. Nous on avait en tête un peu R2-D2 avec Luke Skywalker où justement il comprend tout et donc il y a plein de petites références comme ça pour rendre hommage au cinéma. Un peu de la pop culture aussi.
Ouais, mais parce que c'est une série, en fait, le genre défini, c'est méta fantastico plouc. Donc, au niveau du méta, ça fait partie du jeu aussi de faire des références à d'autres. Et que tu parles du magnifique, ça, c'est moi qui suis un peu plus âgé qui leur avait soufflé l'idée. Et c'est clair que dans le pilote, le gag de la machine à écrire est volé, mais là, à 100%, enfin volé. Emprunté astucieusement, j'espère, à De Broca. Mais parce que moi, le Magnifique, c'est un film qui me fait mourir de rire. Et l'histoire est très semblable. Ouais, c'est aussi deux auteurs ratés qui essayent de s'en sortir entre les difficultés qu'ils ont dans la vie réelle et les difficultés de leurs personnages dans la vie rêvée. Quoi.
Alors, qu'est-ce qu'il y a comme contrainte ici? Donc, finalement, c'est une diffusion qui sort de petit écran télé. Et donc, on est parti pour du multiforme. Ça va au Vio. YouTube, Facebook, qu'est-ce qu'il y a comme contrainte technique pour ce genre de diffusion?
Les contraintes techniques sont assez légères. Maintenant, comme tu le sais, on peut... Comment dire c'est pas compliqué d'uploader une vidéo et si on touche un peu sa canette, on peut assez facilement sortir une vidéo correcte au point de vue technique. Les contraintes sont plus... sur le produit fini, c'est-à-dire que cette web série a été pensée pour le web. Donc, quand on était en post-production, à l'étalonnage, au son, on regardait nos épisodes finaux sur des téléphones pour se dire est-ce que c'est regardable dans le métro, en plein soleil, est-ce que l'image est encore lisible. Donc ça fait partie
des contraintes. Quoi.
Ça fait partie des contraintes qu'on a gardées en tête tout le long de la production. Après. On a essayé de rester le plus ambitieux possible et de travailler comme n'importe quelle autre production de fiction audiovisuelle.
J'ai vu une de vos interviews parler d'interactivité. Ça fonctionne à quel niveau, cette interactivité que vous attendez de votre public vous sentez que ça peut influer éventuellement votre création
En tout cas, moi ce que je pense par rapport à une web-série, ce qui change fondamentalement par rapport à d'autres produits audiovisuels comme le cinéma, c'est qu'on est diffusé sur le web avant tout. Et donc du coup, on se retrouve un peu dans un océan de production amateur ou pas, ou professionnel. Et donc pour se démarquer, c'est beaucoup plus difficile que quand on est programmé par exemple sur la Une ou je ne sais pas quelle chaîne. Et donc du coup, c'est vrai qu'il faut arriver à capter un public parce que la concurrence est plus rude. Et donc voilà, les gens choisissent ou pas de cliquer sur la vidéo par exemple, alors que si on passait à la télé, ils allument la télé et la web série apparaît.
Quoi. Ouais. Quel type de public cible?
Tu veux répondre?
Nous on a en tête un public cible qui peut aller de des adolescents vers 14-15 ans jusqu'aux trentenaires, 30-35 ans. Mais en fait, on se rend compte que ça plaît aussi à un public plus âgé, qu'on a des bons retours aussi, des quarantenaires, des cinquantenaires. Après, bon, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des références qui sont pas mal de références geeks, quoi. Donc c'est vrai que ça parle plus à des jeunes, mais c'est pas cloisonné, quoi.
Ouais, c'est ça, mais pour appuyer et continuer dans le sens de ce que tu dis par rapport au public cible, c'est vrai qu'au départ, même quand on lisait les premières versions du scénario ou qu'on abordait le projet, on se disait « Ah, ça, c'est pour des geekos de 15 à 25
». Ah, ouais.
Non, mais voilà, c'est ça qui vient en tête tout de suite. Mais après, je pense qu'on a essayé de faire attention avec les auteurs et les réalisateurs à pas, comment dire, fermer trop le projet à d'autres publics. Mmh. C'est-à-dire qu'on a fait attention d'avoir une histoire qui se tient sur toute la saison 1, facilement accessible et que tout un chacun peut comprendre et suivre. Parce que ce serait dommage de se cloisonner trop là-dessus. Même si, évidemment, c'est un genre très particulier et que je pense que ça intéressera plus les 15-25 que les cinéphiles
soixantenaires
qui ont été élevés au biberon à du Pasolini ou à du Visconti. Non, on ne fait pas du Pasolini ou du Visconti là-dessus.
Alors, on parle aussi d'un appel à projet pour Instagram. Donc, c'en est où, ça, ça vous interpelle?
Bah, moi, ça m'interpelle doublement parce que d'abord, je suis un jeune vieux. Donc, moi, je suis très limité sur les réseaux sociaux. Donc, j'utilise Facebook, mais j'ai pas de... Enfin, si, je crois que j'ai un compte Instagram, mais je ne sais même pas comment ça marche. Donc, je suis assez intéressé par ces nouvelles idées, en fait, de créer un contenu de fiction sur Instagram. Ça semble assez intéressant. Ça peut toucher un public. Il y a des gens qui sont sur Instagram et ils ont très peu. C'est plutôt des images fixes qui sont partagées, pas des vidéos, pas des histoires. Peut-être je me trompe, mais donc c'est sans doute un public intéressant à aller chercher et c'est dans la droite ligne de ce que cherche à faire la RTBF en création digitale, c'est apporter, créer du contenu là où il n'y en a pas avant.
C'est une nouvelle forme de narration en fait.
C'est ça.
Ça existe déjà, par exemple sur Twitter, il y a les threads, c'est souvent des histoires d'horreur comme ça qui sont racontées sur Twitter, donc par 140 caractères, quoi, sur lesquels peuvent être ajoutées des vidéos pour appuyer le récit. C'est assez nouveau en fait comme façon de raconter une histoire, quoi.
Et la VR, ça vous interpelle? La réalité virtuelle?
La réalité virtuelle, moi je suis pas ultra fan pour le moment encore. Je reste même quand
c'est aux prémices, quoi.
Ouais, c'est comme sur le cinéma 3D, là. Tu vois. Moi je trouve que le cinéma suffit à lui-même sur un plan, quoi. Mm-hmm. Ça ne m'apporte pas grand chose. Je joue beaucoup aux jeux vidéo, donc je suis servi en 3D avec les jeux vidéo, mais au cinéma, c'est pas quelque chose qui m'a encore accroché. Après, je suis à mon avis en minorité. Je pense que la majeure partie et des producteurs et des gens du métier en audiovisuel sont très intéressés par tout ce que ça peut apporter, la réalité
vraiment
virtuelle.
Où on va, quoi. Ouais,
c'est ça qui est excitant avec ce qu'on vit en ce moment, c'est qu'il y a plein de nouvelles technologies et qu'il faut le temps que cette nouvelle technologie se popularise et qu'ensuite on lui trouve des utilités.
Donc on rappelle, Bold Duke et Braddock, c'est jusqu'au 7 mars. Et donc il y a encore à voir. La moyenne d'audience, on sait percevoir
sur,
ça, RTBF.
Sur le pilote, on était les gens qui ont été attirés par le concours et qui ont voté, on était autour de 5500 personnes. Et le pilote a frôlé les 8-9 000 vues avant que la saison démarre. Et puis là, la saison démarre, on est à, je sais pas moi, un petit millier de vues par épisode. C'est lentement mais sûrement.
Ah. Et maintenant, quels sont les projets de la belle équipe?
Ben, là, on voudrait se lancer sur des courts-métrages. Donc voilà, essayer de faire des premiers projets où Toussaint réaliserait, parce qu'on peut être producteur, Toussaint est réalisateur.
Tout ça, on peut quand même le dire, on fait une école de cinéma, INRACI, alors que Félix, lui, c'est Solvay, là. Hein,
oui.
Donc, c'est l'homme qui maintient les cordons de la bourse.
Quand même. C'est les muscles et le cerveau, en fait. Je vous laisse deviner qui.
La partition. Ouais, c'est comme ça qu'on se répartit un peu les tâches. Mais,
mais après, ça travaille très fort. Nous deux, on travaille vraiment, on est frères en plus, donc on s'engueule comme tout le monde, mais on se pardonne très très vite et on travaille fort. En équipe, quoi. C'est pas parce que Félix a fait Solvay que moi j'ai fait une école de cinéma que moi j'ai rien à dire dans les budgets que fait Félix, ou Félix n'a rien à dire sur les retours qu'on fait aux scénaristes qui travaillent avec nous, sur ou exprimer son avis sur un montage, ou même carrément demander à un changement parce qu'il le sent comme ça. Donc, nos rôles entre nous ne sont pas trop cloisonnés. Mais...
Et donc, court-métrage, c'est vrai qu'il y a un beau public aussi pour ça. Il y a plein de festivals.
La Belgique, c'est magique pour ça, je trouve. C'est que la Belgique francophone, au niveau du nombre, vous n'êtes pas très nombreux, mais au niveau de la production cinématographique, c'est assez incroyable. Comment dire, l'étendue de ce qui est produit. Mmh. Ça va du film déconnant, tu vois, avec Xavier Serron et tout ça, jusqu'au film de genre, avec entre les deux du, du film social. Moi, je trouve ça passionnant et on est très content d'être basé en Belgique. Et comme dit Félix, on va tenter là en avril au centre du cinéma et de l'audiovisuel, on va déposer deux dossiers. Donc un dossier qu'on aura écrit nous, que je réaliserai, et un autre d'un copain réalisateur liégeois que je connais depuis quelques temps, qui a envie de se lancer, de faire son premier court métrage.
Voilà, on souhaite à la belle équipe plein de beaux projets et à très bientôt alors.
Ben merci. Oui, merci Jean pour ton temps et à très bientôt à toi.